Ah, que de contes, que d'histoires, que de légendes.
Le témoin de ce vendredi, Jean Rohoux, fils de Plouc.
Quand on demande à ces Bretons d'où ils viennent, c'est toujours de Plou quelque chose. Plougastel, Plouganou, Plouguenast, Plougonven, Plougonvert, Plouguerneau, Plounérin. Il y a en Bretagne, dans le Finistère et les Côtes d'Armor, quelques 70 localités dont le nom commence par Plou, Plou signifiant simplement paroisse. Du coup, à Paris, les Bretons sont surnommés les Plouques.
Jean Rohoux est un éminent professeur de littérature française, spécialiste de Racine ou encore de Madame de Lafayette, parvenu à l'âge de la retraite et en haut du col de l'an 2000, il a considéré les chemins qui s'ouvrent à ses petits-enfants et s'est remémoré le sien propre. L'entrée miraculeuse au collège, le lycée Henri IV à Paris en galoche en 1953, l'agrégation et tout ce qui s'ensuit, et il s'est dit, mais c'est inouï pour un fils de Plouc. A commencé alors la rédaction de ce qui deviendra une trilogie. Le succès du premier volume en 2005 a tenu pour une part à ce titre, Fils de Plouc. 20 ans plus tôt, on m'aurait jeté des pierres, les Bretons en avaient soupé des clichés, mais là, c'était le bon moment, l'injure était devenue un motif de fierté. Jean Rohoux raconte qu'à l'extrémité de la France, il était une péninsule, hors d'âge, qui témoignait d'un monde dépassé que tous, et les Bretons eux-mêmes, jugeaient archaïque. Et voilà que ce bloc de passé s'est jeté tout entier et délibérément dans une société ouverte. Et prodige, il a réussi à garder la matière qui lui est propre et aussi sa manière d'être au monde et à la France si particulière. C'est sans doute là que réside la réelle étrangeté de la Bretagne d'aujourd'hui.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Jean Rohoux, donc, bonjour.
Bonjour.
Fils de Plouc, 3 volumes, le dernier vient de paraître. C'est chez Ouest France, vous publiez souvent chez des éditeurs bretons. Alors, on va essayer de situer l'endroit où vous êtes né en 1934. Si j'ai bien vu, c'est à l'ouest de Morlaix, au sud de Plouzévédé et de Plouvorne.
Et de Plougard.
Ah. Et c'est, essayons de fixer les choses pour les touristes, près des grands enclos paroissiaux que vous fréquentiez régulièrement pendant votre enfance.
Absolument pas. Je connaissais vaguement leur existence, mais pour nous, c'était de vieux cailloux entassés et on n'y allait pas. Ça, c'est une restauration dans la mentalité. Ça existait, c'était très beau, maintenant tout le monde le trouve, mais on s'y intéressait pas à l'époque.
Bon, je vous demande pas si vous alliez à la plage, c'était au moins 15-20 kilomètres.
Ah oui, et puis c'était pendant la guerre, et ensuite 15 kilomètres, c'était trop long à pied.
Et vous racontez, mais c'est pas possible que ce soit vrai, l'histoire d'une ferme dont les habitants se cachaient quand quelqu'un passait sur la route ?
Oui, c'était une ferme isolée et la route était également très peu fréquentée et des gens qui étaient restés un peu sauvages, oui, dans leur relation aux autres. Mais c'est les seuls que j'ai connus comme ça. De toute façon, alors que notre langue était le breton, je n'ai non plus connu personne qui fût incapable de comprendre le français.
Parce que je méfie avec les Bretons une légère tendance à la raillerie.
Ah oui, nous étions vraiment railleurs. Dans les milieux populaires, on est facilement railleurs, je crois. Et puis, quand on est soumis à tellement de choses, l'ironie est une solution. En plus, notre langue, le breton, n'était pas une langue travaillée par Descartes, Kant, etc. Une langue intellectuelle, philosophique. Donc, nous étions habitués à tourner les choses par des images, ce qui est un moyen de faire de la raillerie.
Vous parlez admirablement de votre mère, sans raillerie, mais comment dire, elle était dynamique, généreuse, railleuse,
oui.
Rugueuse.
Oui, et impulsive, très impulsive. Mais ma mère, je lui dois extrêmement. Si j'ai réussi, il y a des gens qui disaient « Oh, celui-ci, il est doué, par exemple ». Mes cahiers d'écolier ne disent pas que j'étais doué au début de l'école primaire. Mais j'ai eu un tas de chances extraordinaires, dont ma mère, qui était une excellente élève à l'école des religieuses, ne s'est jamais consolée d'être restée là, dans la ferme et de ne pas être allé en ville. Alors je suis en un sens la réalisation du rêve de ma mère. Et ma mère avait le culte de l'école, était très compétente en français et elle m'a beaucoup poussé. En plus, elle était très entreprenante. Pourquoi est-ce que je suis allé au collège ? Eh bien, premièrement, parce que l'instituteur avait un fils du même âge que moi, et un fils d'instituteur, ça allait au collège, évidemment. Alors qu'un fils de petit paysan en 1945, décision prise en 1944, c'était encore tout à fait exceptionnel. Alors l'instituteur est venu voir ma mère, et mon père n'était pas là, il était prisonnier de guerre. Or, mon père était un homme sage, raisonnable, c'est-à-dire quelqu'un qui n'envoie pas son fils comme ça n'importe où. Tandis que ma mère était quelqu'un que je résumerais en disant « Fonçons d'abord, on verra bien après ». Avec des gens comme ça, on peut aller loin en prenant quelques risques.
Et le vocabulaire qu'elle avait était extrêmement expressif.
Ah oui, oui, oui.
Exemple.
Elle disait, par exemple, 16 000 milliards de noms de triple dieu. 7 000 milliards de noms de Dieu, de triple Dieu. Mais, oh, un peu tout le monde s'exprimait comme ça.
Oui, mais enfin, vous avez après contenu votre vocabulaire, vous. Et vous dites dans le troisième volume de Fils de Plouc, j'ai eu la chance d'aller au théâtre de Poche de Hédé, c'est au nord de Rennes, et puis dans une compagnie de théâtre amateur qui s'appelait Le Trac, et je me suis révélé quand j'ai tenu le rôle de celui qui profère des injures.
Oui, parce que j'ai retrouvé là une potentialité un peu oubliée de mon existence.
Exemple ?
Par exemple, de me promener avec un bâton et de frapper le sol avec ce bâton.
En disant vous dit,
non dédié hein,
un
parce
seul.
Que, oui, il ne faut pas exagérer les bonnes choses.
La Bretagne est une mosaïque complexe. Vous êtes du Léon, pays de gens travailleurs, austères, pas rigolos, dites-vous.
Dévots.
C'est très différent des gens du Trégor, c'est très différent des gens de Cornouailles, c'est différent des gens du pays Bigoudin, comme Père Jacques Elias. Il faut qu'on l'entende, c'est une révérence obligée quand on fait une émission sur les grands succès de librairie de Bretagne. Le succès du Cheval d'Orgueil excède même, et de loin, la Bretagne, puisque c'est un succès mondial. Voici comment il s'exprimait à la fin des années 1970 chez Bernard Pivot.
J'étais la première génération de ma famille, armée d'une instruction, si vous voulez, telle que j'étais capable d'écrire, alors qu'avant moi, personne dans ma famille n'avait eu l'écriture à sa disposition. Et alors je m'y suis mis. Et d'autre part aussi, il y a à remarquer que, par exemple, en ce qui concerne l'idée que les gens ont des paysans, c'est extrêmement fausse. J'ai toujours entendu dire que les paysans étaient des gens balourds, des gens qui étaient lents de compréhension, ce qui est absolument faux étant donné que la plupart des outils dont se servent les paysans jusqu'à une date très récente ont été inventés non pas par des ingénieurs de la ville mais par eux-mêmes. Et d'autre part, alors, la lenteur que l'on reproche quelquefois aux paysans, que l'on considère comme une balourdise, c'est un rythme vital. Ils n'ont pas la même pulsation cardiaque que les gens des villes. Et depuis 4 jours que je suis à Paris, je sens qu'il va falloir que j'aille voir mon cardiologue. Et alors, d'autre part, il y a aussi cette espèce de temps. Ils vivent avec le temps. N'est-ce pas? Quand on veut, on met quelque chose dans la terre, on sème quelque chose, mon père, mes grands-parents ont toujours dit ça, il faut attendre que ça lève, on ne peut pas presser, ou très très peu. Alors, cette faculté d'attendre fait que leur rythme vital est quelque chose d'absolument exceptionnel, j'ai essayé de le rendre.
Bon, vous avez beaucoup de proximité, Jean Roux, avec Père Jacques Elias. En même temps, vous n'avez pas votre bâton aujourd'hui, ni l'injure à la bouche, vous êtes dans un studio de Radio France. Le rapprochement toujours fait avec Père Jacques Elias peut vous irriter, parce que vous êtes très différent de lui à bien des égards.
Oui, je suis très différent parce que Père Jacques Elias était d'une autre époque déjà. Il a publié Le Cheval d'Orgueil en 1975, c'est-à-dire au moment où les Bretons commençaient seulement à sortir du sous-développement économique et du mépris qui pesait sur eux en France, et même en Bretagne pour ce qui concerne les Bas-Bretons. Alors, il a voulu montrer le côté positif. Or, c'était un conteur. Le travail d'un conteur consiste à enjoliver la réalité. D'un côté, ce que l'on vient d'entendre là est tout à fait juste. De l'autre côté, c'est enjolivé. Ils étaient quand même un peu lourds et un peu lents, oui. Et ils ne le sont plus aujourd'hui.
Et vous, vous êtes davantage sensible aux injustices sociales, aux rapports de domination. Vous êtes le fils de fermier qui était dans une relative aisance, mais qui n'était pas propriétaire. Et vous avez vécu les avanies que faisaient vivre à vos parents leurs propriétaires.
Oui, bien que notre propriétaire, le général qui possédait ces deux fermes, ne fût pas particulièrement fâcheux. Mais j'ai été très sensible. Je suis un fils de pauvre et je reste solidaire de mon milieu d'origine, alors que moi, maintenant, je suis un privilégié, non pas de l'argent, mais de la culture, ce qui est très important dans la société d'aujourd'hui.
Je vous propose qu'on parle d'un autre best-seller en Bretagne, peut-être moins connu au-delà des frontières de la Bretagne, Jean-Marie Desguignets. Il a l'âge des grands-pères de Père Jacques Elias. Il meurt en 1905 devant l'hospice de Quimper qui ne lui a pas ouvert ses portes. Il a un destin que vous pourriez retracer rapidement, extraordinaire.
Extraordinaire. Lui, il n'est jamais allé à l'école. Et comment a-t-il appris le français? Eh bien, il était employé dans une grande ferme. Et dans cette grande ferme venaient des élèves d'école d'agriculture qui, eux, étaient des francophones et qui laissaient parfois des morceaux de papier sur lesquels ils avaient écrit quelque chose en français. Ils avaient écrit, par exemple, le taureau. Et lui, c'est comme ça, dit-il, qu'il a appris un peu de français.
Lecture de son livre « Mémoire d'un paysan bas-breton » par Claude Duneton.
Ma tête apprenait vite tout ce qu'elle entendait et voyait. Mais ma main n'avait pas les mêmes facultés que ma tête. Celle-ci, habituée à manier de lourds instruments, n'était pas faite pour manier le crayon. J'arrivais bien à former des A, des B, mais d'une façon grossière et en trouant le papier. Avec mes doigts ou le manche de mon fouet, je les faisais mieux sur la terre ou dans le sable. N'importe, je ne perdais pas courage. Chaque fois que je me trouvais dehors avec mes vaches, et lorsque j'étais sûr que personne ne pouvait me voir, je recommençais toujours à fabriquer tant bien que mal les lettres de l'alphabet, majuscules et minuscules. Puis ensuite, je griffonnais les mots vache, taureau, cheval, chou, foin, paille et beaucoup d'autres termes agricoles que je voyais écrits sur les modèles.
Alors, on garde ce mot modèle, on y reviendra dans un instant, mais continuer à raconter le parcours de Desguignets, il va s'extraire, et pour s'extraire du milieu qui est le sien, il ne va pas hésiter à s'enrôler dans l'armée sous Napoléon III.
Oui, d'autant qu'il a été un peu persécuté. Alors, il s'est enrôlé dans l'armée, il a fait, si je me souviens bien, la guerre de Crimée, après quoi il est passé par le Moyen-Orient, il est passé aussi par l'Algérie, et puis il écrit ses mémoires, il écrit dans un français tout à fait remarquable, et en plus, il se permet de faire des citations en latin, en italien, en anglais, c'est extraordinaire.
Oui, mais ses mémoires sont pénétrées d'une colère bouillante, parce que il est devenu fermier, il a très bien réussi, mais son propriétaire l'a chassé, il est devenu débitant de tabac parce qu'il avait été combattant de l'armée, et le curé l'a fait chasser du village, il en veut aux Bretons, oui. Réels.
Oui, et en particulier aux dominants et aux prêtres. Violemment. Il est vraiment violent. Ça se comprend dans son cas particulier.
Oh, vous partagez parfois ce point de vue.
Oui, mais moi, j'ai quand même moins subi que lui. Mes parents n'ont pas été expulsés. Toutefois, quand je suis allé au collège de la République, c'est-à-dire en breton au collège du diable, eh bien, mes parents ont été priés de sortir de l'église et monsieur le recteur, comme on dit en français de Bretagne, leur a dit « vous êtes excommuniés ». Ce qui est quelque chose d'extrêmement grave, ça veut dire « exclu de la communauté ». Heureusement, les gens n'ont pas suivi. C'est-à-dire que les gens ont continué à avoir les mêmes relations avec mes parents. Mais quand même, excommuniés, en plus, c'était un mensonge parce que seul un évêque a pouvoir d'excommunication dans l'Église catholique et jamais aucun évêque français n'a excommunié qui que ce soit parce qu'il a mis ses enfants à l'école du diable.
Mais entré par miracle, si je peux employer ce mot, au collège, vous dites, moi, je suis pas comme Desguignets, Je suis sage et obéissant, je fais profil bas.
Et oui, et je ne suis pas non plus comme Xavier Gral, qui, fils de notaire, pouvait se permettre d'être chahuteur, parce que quand il a été renvoyé du collège de Saint-Paul-de-Léon, il a été accueilli au collège de Saint-Brieuc, et puis revenu au collège de Saint-Paul-de-Léon. Non, moi j'étais obligé d'être sage et soumis, et puis je voulais réussir, à vrai dire, pour une raison que je n'ai pas bien comprise. Je n'ai pas compris, mais j'ai senti qu'il y avait une énorme différence entre les conditions de vie dont je venais. Chez moi, il n'y avait aucun confort, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de toilette même dehors, et les conditions de vie que me promettait la réussite scolaire. Alors ça m'a rendu agile. Je
Alors,
dis
justement,
agile plutôt qu'intelligent, parce que je sais ce que ça veut dire agile.
Justement, comment sont les manuels de français que vous avez entre les mains ? On entendait Desguignets parler de ces modèles. Alors vous, vous voyez des manuels où il est question du sapin de Noël, il n'y avait pas de sapin de Noël chez vous, de la montagne, à part les monts d'Arrée que vous ne connaissiez pas alors qu'ils étaient proches, il n'y en a pas en Bretagne, les autobus.
Oui, je conjuguais, j'attends l'autobus au carrefour, tu attends l'autobus au carrefour, j'aurais pu attendre longtemps, en 1941, l'autobus au pseudo-carrefour de Plougourvest. Et le manuel excellent, ce manuel de Mathurin Baucher était utilisé dans toutes les écoles parisiennes et dans la plupart des écoles françaises à l'époque. Ce manuel parlait évidemment de toute la France, comme vous venez de le dire, aussi bien de la mer, de la montagne, du pays, du vin, et de choses que je ne connaissais absolument pas, des cadeaux qu'on faisait à Noël, de la villa de mon grand-père que je ne connaissais pas non plus. Mais même quand il parlait de choses que je connaissais, c'était dans une langue qui n'était pas la mienne. Et souvent, il ne se souciait pas de parler de la réalité, mais de nous apprendre les particularités de la langue. Par exemple, j'écrivais sur mes cahiers, à 8 ans, « télégraphiez au photographe ». Je ne connaissais ni télégraphe ni photographe, mais ça m'apprenait que le son F ne s'écrit pas nécessairement F. J'écrivais « un scorpion a piqué mon cousin Zoïl ». Tous mes cousins ne s'appelaient pas Zoïl, mais ça m'apprenait que O et I, ça ne fait pas nécessairement O. Et le plus beau, j'écrivais « petite Irène ira à Anne ». Là alors, personne n'a jamais dit ça, « ira à Anne ». Mais ça m'apprenait qu'il y a en français trois « a » qui étaient là juxtaposés, « a » sans accent, « a » accent grave, « a » accent circonflexe. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude, là, de pratiquer, d'apprendre une langue qui ne parlait pas de la réalité, une langue qui était mystérieuse et merveilleuse. Et c'est peut-être pour ça que j'ai tellement apprécié Racine par la suite, lorsque, à la fin de la troisième, je l'ai reçu comme prix du premier cycle, et que je l'ai lu en gardant mes vaches pendant les vacances, et que je lisais, par exemple, « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée ?» Je ne comprenais pas du tout. D'ailleurs, est-ce que une moitié de nos auditeurs comprend ce que cela veut dire ? Mais c'est tellement harmonieux, c'est tellement beau que, après, j'ai fait ma thèse sur Racine.
Mais attendez, ne brûlons pas les étapes. Donc, le collège à Morlaix, le lycée Henri IV à Paris en Cagne, en galoche, ça, j'y crois pas. J'ai lu quand même que Tanguy Prigent, député du Nord du Finistère, socialiste, quand il est devenu ministre de l'Agriculture à la Libération, il est arrivé en galoche. Et vous de même ?
Oui, moi, pour Tanguy Prigent, je ne peux pas en témoigner vraiment, mais pour moi, oui. D'ailleurs, j'ai la photo de classe de la cagne du lycée Henri IV, où je suis au premier rang, les jambes croisées, avec mes galoches au premier rang.
L'agrégation, l'enseignement à Tunis, puis en Bretagne, vous êtes resté très attaché à l'université de Rennes. Cette thèse sur Racine, plusieurs publications sur Racine, vous préparez encore un livre sur Racine ?
Oui, je prépare un petit livre sur Racine pour rassembler les réponses à toutes les questions de base, réponses qu'on ne trouve pas ou facilement. Hein, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il est devenu écrivain et comment est-ce qu'il a pu devenir écrivain ? Pourquoi a-t-il choisi le théâtre ? Pourquoi la tragédie ? Comment est-ce qu'il travaillait quand il préparait une tragédie ? Est-ce qu'il avait une vision tragique, etc.
Et comment parlait-il de l'amour ? Parce que vous expliquiez à vos étudiants Il y a Corneille, les vertus viriles, et puis en l'espace de 10 ans ou 20 ans, les changements peuvent être très rapides, il y a le poète de l'amour, Racine.
Oui, parce que Corneille, les grandes pièces, les pièces les plus connues de Corneille, ont été écrites dans les années 30, début des années 40, c'est-à-dire à un moment où, en France, il y avait un grand combat pour reconstruire le pays. Reconstruire politiquement avec Richelieu, établir la monarchie absolue contre les grands seigneurs, reconstruire religieusement, reconstruire philosophiquement la pensée avec Descartes, reconstruire même les façons d'être avec le modèle de l'honnête homme, reconstruire la littérature en lui imposant des règles. Et dans l'élite, tout le monde était engagé dans ce combat, c'est-à-dire que l'élite de cette époque-là était composée de militants, comme Rodrigue, comme Horace, comme Polyeucte. Tandis qu'après, eh ben, une fois l'ordre établi, on est soumis à l'ordre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on fait, outre des intrigues, on a les relations personnelles et en particulier l'amour. Et ça, d'aussi bien dans la société que dans la littérature. À l'époque de Corneille, les gens étaient engagés dans l'action et là, ils sont emportés par des passions.
Dites-moi, c'est une question que vous ne posez pas dans votre livre, et le sexe chez Racine, c'est une question que vous posez souvent dans Fils de Plouc. Je reviens à Fils de Plouc. Vous vous dites, c'est curieux, la langue de l'amour en breton, c'est pas du tout la même que la langue de l'amour en français.
Non, parce que le breton était une langue familiale et donc extrêmement pudique. À l'époque, un peu partout en France, la pudeur régnait, et en particulier dans Mont-Léon, qui était extrêmement dévot, donc soumis à une morale restrictive.
Donc, comment dit-on en breton, la poitrine vibre ? Est-ce qu'on met la main sur l'épaule ? Comment dit-on la tendresse de ma mère ?
Les gens de cette époque-là ne s'embrassaient pas publiquement, visiblement, même en présence de leurs enfants. Et vous savez quelle a été l'importance de cette première photo de gens s'embrassant sur une place, une photo de Doisneau, je crois, qui a presque fait scandale. Alors le sexe chez Racine, ah ben, la littérature à l'époque avait autre chose à dire que de parler de la sexualité. Cependant...
Et le sexe en Bretagne ?
Eh bien, il existait évidemment. Moi, je ne l'ai guère rencontré. En revanche, les Léonards, en tout cas, comme les Espagnols, comme les Québécois, ils ont pris un sacré virage au moment 68-70, plus nettement encore que les autres.
C'est dense, frénétique auquel vous avez assisté et participé.
Ah oui, ça, les Bretons, depuis le XVIe siècle, étaient connus pour leur dynamisme impulsif. Pour ce qui concerne le tabac, pour ce qui concerne l'alcool, pour ce qui concerne la danse, ils étaient considérés comme des champions. Et ils le sont un peu restés, et aussi d'ailleurs pour la vitesse et pour la drogue.
Gonesse Prigent, c'est une chanson d'amour. J'ai attendu longtemps dans l'ombre sombre des tours brunes. Vous voyez, tout est retenu. Et puis, lui répond Lisa Guérard, un jour il reviendra par-dessus les mers, par-dessus les champs.
Inter.
Gonesse Prigent, l'un des premiers témoins du grand renouveau de la chanson bretonne, Jean Rohoux. dans le troisième volume de Fils de Plouc. Vous brûlez de parler à vos petits-enfants, aux plus jeunes, alors que les premiers volumes ont surtout eu du succès chez les plus âgés. Ce qui vous frappe, c'est que les Bretons se sont fortement modernisés et francisés, tout en revendiquant les particularités qu'ils fuyaient honteusement auparavant.
Mais oui, parce que on nous faisait honte de notre identité. D'une part, pour les Parisiens, qui évidemment donnaient le ton, il n'y avait pas besoin d'aller très loin pour trouver les sauvages. Ils étaient là, à proximité. Et d'autant plus que, qui est-ce qui a construit les lignes de métro et les gares parisiennes ? Les travailleurs immigrés bretons à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, ils étaient partout par là. Et d'après un certain nombre de témoins, non seulement ils ne parlaient pas français, mais même ils ne parlaient pas une langue. Ils éructaient des sons inarticulés, dit même Mérimée parle comme ça. Et donc, on nous faisait honte de nous-mêmes. Et cela d'autant plus facilement que, contrairement aux autres langues régionales, le breton est isolé. L'alsacien, le provençal, le basque s'appuie, le corse s'appuie sur une langue nationale de l'autre côté de la frontière. Le breton ne s'appuie sur rien. Les autres langues régionales sont parlées dans la capitale régionale, à Toulouse, à Corte, à Strasbourg, à Lille. En Bretagne, ni à Rennes, ni à Nantes, on n'a jamais parler le breton. Et du coup, même dans une petite ville de l'Ouest, comme Landivisiau, les gens qui voulaient être bien, être chic, affectaient de parler en français et même d'ignorer le breton qu'ils connaissaient parfaitement. Et donc, nous étions, oui, méprisés. Et on nous reconnaissait assez facilement, d'abord par nos noms, souvent, les noms en « le », comme le brun, il y en avait beaucoup qui étaient bretons. Les noms terminés par « ec », par exemple, comme « trois d'ec », c'était breton.
Et si puis vous parliez au futur, maintenant ? Ça, c'était le passé.
Oui,
et le futur.
On nous reconnaissait aussi à l'accent. Hein. Moi, quand je suis arrivé en Hippocagne, à Rennes, en lettres supérieures, il y avait là des Angevins, des Tourangeaux. Quand je leur causais en français aussi, comme ça. « Pardon », disait-il, à cause de l'accent. Oui, alors, en 1968, comme vous le savez, les derniers sont devenus les premiers. Et puis, il y a eu un dynamisme économique en Bretagne qui a fait de nous les grands producteurs agricoles et puis les grands pollueurs d'ailleurs. Et puis il y a eu cette vocation électronique de la Bretagne parce que nous étions les plus proches pour faire la traversée de l'Atlantique à partir de Pleumeur-Bodou. Ça a vraiment redonné fierté et la force actuelle des Bretons, c'est d'avoir cette fierté-là. Autant il y avait eu un livre intitulé « Comment peut-on être breton ? Comment peut-on être crétin à ce point ?» Aujourd'hui, quand je dis « je suis breton », ah, comment peut-on ne pas être breton ?
Eh bien, vous êtes salué par Alexandre Chesnais et par Gaëtan Colli, qui sont de l'autre côté de la vitre et qui vont peut-être se reconnaître dans ce que vous venez de dire. Fils de Plouc, l'émission a été préparée par Franck Olivar. C'est une trilogie chez Ouest France. En attendant vos autres livres, retour à votre amour du XVIIe siècle. Et puis vous recommandez aussi de citer Liberté,
Égalité, Liberté, point d'interrogation, Fraternité, point d'interrogation, Inégalité, point d'exclamation. Et je prépare actuellement un roman suggéré par les éditions Albin Michel.
Merci à Jean Lebrun pour cette émission. À suivre, Mathieu Vidard et le club de la tête au carré. Très bon après-midi à l'écoute de France Inter. Il est 14h.